There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vous vous demandez ce qu'il y a dans la tête d'un podcasteur? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre God Show, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 503. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, de l'envie et des nouveaux projets, peut-être qui se réalisent, et peut-être que votre projet, c'est de créer un podcast. Et aujourd'hui, mon invité est l'un des podcasteurs les plus connus en France, et peut-être le seul qui est capable de vivre, qui arrive à vivre de Patreon, du financement participatif, grâce à son podcast, et ou plutôt ses podcasts, et c'est vraiment, hein, il se définit comme un artisan du podcast, un terme artisan que j'utilise moi-même aussi, car je me reconnais bien dedans, et je me reconnais bien dans la philosophie de Patrick Béja, mon invité, car vraiment, il fait partie aussi de ceux qui m'ont donné envie de faire du podcast, aussi de lancer le Patreon de votre coach web, de tester ce que c'était le financement participatif, de voir où on pouvait aller comme ça. Alors, bien entendu, Patrick Béja n'est pas arrivé à ce résultat en quelques jours, ni en quelques mois, ni même en quelques années. Il nous a expliqué, hein, je lui ai demandé quel était son parcours. Comment, hein, il arrivait à passer de, finalement, ce qui n'était pas son métier, hein, il n'avait jamais fait de podcast il y a 14 ou 15 ans, à devenir podcasteur professionnel. Peut-être quelque chose qui vous titille, peut-être quelque chose qui vous aimeriez aussi, vous, être podcasteur professionnel, peut-être. Hein, il y a beaucoup de gens qui adoreraient être podcasteur professionnel, ou en tout cas être créateur de contenu professionnel. Mais comment ça fonctionne, hein, comment on pense, comment on réfléchit? Eh ben, on a parlé de tout ça avec Patrick, un petit peu son parcours, on a discuté de Patreon, du lien avec son autre, de ce qu'attendent ou pas ceux qui financent son podcast. On a parlé de son métier, comment il le voit, comment il voit ses émissions, du professionnalisme qu'il met dans ses émissions, hein, de ce qu'il considérait à une époque comme son second métier, avant d'être son métier principal, c'est son second métier. Comment il voit la construction de son entreprise, même si, bien sûr, il nous a pas dit ses projets sur l'avenir, mais il nous a dit, c'est ce qu'il expliquait, qu'il avait une vision sur ce qui se passait dans les mois qui allaient venir, hein, vraiment, comment il voulait construire les choses, et que son ambition, c'était que ça dure le plus longtemps possible, et donc il fallait faire tout ce qu'il fallait, hein, justement, pour que ça marche. En tant qu'artisan, hein, seul, hein, dans sa forêt finlandaise, mais avec un Skype, un micro et de nombreux invités, un panel, une petite bande, hein, qu'il invite régulièrement, c'est vrai qu'il analyse, hein, le monde de la tech, le monde du jeu vidéo, même si on s'est posé la question de savoir finalement quelle était sa position, est-ce qu'il était journaliste ou pas, où commence la tech et où s'arrête la tech, hein, jusqu'où faut-il aller, quelles sont les limites de tout ça, et finalement quelles sont aussi les contraintes, les difficultés. Et vraiment, il y a un aspect qui est très important, c'est l'importance de la constance, de la régularité, du rendez-vous, d'être fidèle au rendez-vous qu'il a donné à ses auditeurs, tout simplement, de semaine en semaine. Hein. Alors au départ, avec des épisodes qui étaient espacés, puis petit à petit, il les a rapprochés pour passer en hebdomadaire, notamment sur le rendez-vous tech, où le contrat, c'est de dire « je suis là chaque semaine avec des invités, des analyses, etc. » Et on a parlé vraiment de tout ça. Je dois aussi vous préciser que cet épisode a un pendant plus technique. Nous avons enregistré un second épisode dans la foulée pour mon autre podcast qui s'appelle Créer un podcast génial. Maintenant, si vous cherchez sur iTunes, sur Apple Podcasts, sur la plateforme de podcast, soit vous cherchez Bertrand Soulier, vous tombez sur tous les podcasts que je crée et vous tomberez sur ce podcast-là, vous ne pourrez pas me louper, il y a ma tête avec ma tasse qui dit « Aujourd'hui, tu as un bon jour pour créer un podcast ». Et nous y avons parlé de son matériel, les logiciels précis qu'il utilise, comment il publie son podcast, ses conseils, le matériel vraiment, quel est son micro par exemple, hein, qu'est-ce qu'il titille comme table de mixage par exemple, vraiment tous ces aspects-là, comment il publie le podcast, comment il génère son flux RSS, ses conseils aussi, enfin vous voyez un petit peu tout ça. Donc c'est l'épisode que vous écoutez sur votre coach web aujourd'hui, et plutôt un épisode sur son parcours et sur comment il voit son métier, comment il le voit évoluer, comment il l'a construit, où il en est tout de suite. Et l'autre épisode est plutôt un épisode qui est plus technique, vous savez, qui répond aux questions d'ailleurs, parce que tout le monde se pose la question de se dire, mais finalement, quel est le matériel nécessaire pour créer un podcast? Comment on fait pour créer un podcast? Quelles sont les astuces de ceux qui sont justement des professionnels? Et ben, l'autre épisode répondra plutôt à ces questions. Avant de vous laisser avec notre discussion avec Patrick Béja, je vous rappelle que, comme lui, j'ai un Patreon et que mon ambition est, comme Patrick, de pouvoir continuer à créer du contenu très 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 longtemps, parce que c'est un chouette métier, soyons honnêtes. Et donc, vous pouvez soutenir aussi votre coach web par Patreon, enfin, votre coach web et aussi, finalement, l'ensemble des podcasts, hein, même si Kilomètre 42 a maintenant son propre Patreon, mais vous soutenez en fait l'ensemble du créateur que je suis. Vous faites votrecoachweb.com/Patreon et vous serez redirigé tout de suite sur la page Patreon sur laquelle je vous explique en fait les bénéfices du Patreon et notamment d'avoir un épisode privé. Hein, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'épisodes de votre coach web, ben, il y a un épisode privé tous les lundis hein, de votre coach web pour ceux qui financent le podcast à travers Patreon, mais aussi je l'ai tendu à ceux qui achètent par exemple des formations, qui vont prendre du coaching, des choses comme ça, je l'ai tendu. En fait, il y a un flux privé, une fois que vous êtes rentré dans la boucle, vous avez un flux privé sur lequel vous avez des informations, des conseils, et aussi en fait les coulisses hein, de ce qui se passe un petit peu, de comment je réfléchis, de ceux qui sont par exemple, qui financent le podcast dans le flux privé, ils savaient qu'aujourd'hui, il y avait Patrick Béja qui était l'invité du podcast. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Je pense que vous allez apprendre énormément de choses, parce que c'est vraiment très intéressant de vraiment voir comment il pense, hein, de voir aussi sa méthode de pensée, parce que vraiment, si vous écoutez ses émissions, vous comprendrez comment il les construit, comment il les imagine, et comment finalement, d'où elles viennent, hein, comment elles arrivent ainsi, hein, comment lui il pense, voilà, c'est ce qui m'intéressait, c'était comment il pense. J'ai failli l'appeler dans la tête de Patrick Béja, dans la tête d'un podcasteur, mais vraiment, je trouve qu'on rentre dans ce niveau-là de savoir vraiment exactement comment il fonctionne pour imaginer, pour inviter des gens, pour choisir les sujets, et c'est vraiment très intéressant. Je vous souhaite une très belle écoute, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les créateurs. Bonjour Patrick, comment vas-tu?
Salut Bertrand, ça va et toi?
Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors j'avoue, aujourd'hui je suis un petit peu intimidé parce que tu fais partie, je sais pas si je te l'avais dit, des personnes qui m'ont donné envie de faire du podcast. Parce que tu as un parcours qui est, je trouve, extrêmement inspirant et je voudrais qu'on parle de ça aujourd'hui dans cet épisode. Notamment parce que, je sais pas ce que tu as sur ta carte de visite d'ailleurs. Tiens, on va commencer par ça, comment tu te présentes?
J'ai pas de carte de visite, tout est virtuel chez moi, mais je me présente comme podcasteur indépendant et parfois je qualifie la chose en disant que je suis un artisan du podcast. Je trouve que c'est un terme qui définit bien mon profil, qui est entre un vrai amateur et quelqu'un qui fait ça de manière plus, pas industrielle, mais enfin professionnelle On a vu beaucoup de podcasteurs et de sociétés de podcasts se développer. Et moi, je fais quand même ça tout seul dans mon coin avec amour. Donc, artisan me convient bien.
Oui, alors j'aime bien ce terme artisan parce que moi, j'ai utilisé plusieurs fois dans mon podcast aussi, notamment le terme d'artisan. Parce que faut le dire quand même, c'est que tu vis de ton podcast, ou plutôt de tes podcasts. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que peut-être certains n'écoutent pas tes podcasts, est-ce que tu peux nous redonner la liste de ce que tu produis finalement?
Bien sûr, le Rendez-vous Tech est une émission hebdomadaire qui couvre de manière simple et compréhensible l'actu tech pour essayer de faire en sorte que les gens qui ne sont pas, alors à la fois les fans et les geeks comme moi, et les gens qui ne sont pas forcément super au point dans ces domaines qui sont hyper importants puissent y comprendre quelque chose. Donc ça, c'est le Rendez-vous Tech. Et le Rendez-vous Jeu, c'est l'équivalent pour le jeu vidéo qui est un petit peu plus, on va dire, dédié aux fans du genre, mais qui est conçu dans le même esprit. Puis après, j'ai des émissions en anglais aussi et des émissions auxquelles je participe en tant qu'invité, mais ces deux-là, c'est les principales.
Pour autant, t'as pas commencé par là, parce que c'est ce qui est important aussi de rappeler dans le parcours, c'est que finalement, on ne devient pas podcasteur comme ça du jour au lendemain. Fait combien d'années que tu fais du podcast en final?
Ouf, j'ai commencé en 2006, donc tu fais le calcul, ça fait bientôt 14 ans.
D'accord. Et
les gens ne connaissaient pas vraiment, ne savaient pas ce qu'était un podcast.
Et pourquoi justement t'as commencé par le podcast?
Écoute, c'est un truc qui est arrivé très naturellement. C'est comme beaucoup de gens, avec mon iPod. J'avais un iPod mini à l'époque et j'écoutais beaucoup de musique, bien sûr. Et je jouais en même temps beaucoup à un jeu qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, World of Warcraft. Et c'est un jeu qui était passionnant, j'y passais beaucoup de temps. Et j'avais en même temps envie d'écouter autre chose que de la musique sur mon iPod mini. Et j'avais entendu parler des podcasts parce que c'était un petit peu dans l'air du temps à l'époque pour les geeks comme moi. Et Apple avait intégré les podcasts à sa plateforme. Donc, je suis allé sur iTunes, je suis allé dans la section podcast et j'ai cherché des podcasts sur World of Warcraft. J'en ai trouvé quelques-uns. Et ça m'a beaucoup plu. C'est vraiment un format qui était, bon, que maintenant tout le monde connaît, mais qui était original à l'époque. Et j'en ai cherché ensuite en français. Et il n'y en avait pas, il n'en existait pas. Et j'avais tellement envie que je me suis dit, bah, je vais le faire moi-même. Donc, je me suis lancé dans les recherches et techniques et ce qu'il était nécessaire de faire. Moi, je n'avais jamais fait ni radio ni quoi que ce soit de ce type. Et puis, avec un ami, on s'est lancé en parlant de ce jeu-là dans un podcast français, francophone, qui s'appelle Azeroth.fr, qui s'appelait Azeroth.fr. Et je suis vraiment tombé complètement amoureux du format pour tout un tas de raisons. Et donc, à partir de là, je me suis lancé dans plein d'émissions différentes.
Parce que finalement, ton parcours à l'époque, tu avais un métier, tu étais étudiant, enfin, tu faisais quoi en fait?
Oh, moi, je suis vieux, donc j'avais un métier. À l'époque, je travaillais dans le cinéma et la pub et la télévision. J'étais intermittent du spectacle. Je faisais de la production et de la réalisation, enfin de l'assistanat réalisation. Donc, j'avais des périodes très, très intenses où je travaillais beaucoup et puis des périodes un petit peu plus détendues. Donc, ça me permettait de gérer comme ça mon emploi du temps. Et puis, à l'époque, l'émission, j'en faisais une pendant quelques temps. J'en faisais une et elle était mensuelle. Donc j'ai commencé doucement, on va dire.
Oui, alors que maintenant tu es passé alors en rythme hebdo pour le rendez-vous tech, ce qui doit pas être simple, j'imagine, parce que on en reparlera, mais il y a un travail de veille, de recherche d'informations, de préparation qui semble monstrueux quand on écoute toutes les informations que tu remontes dans chaque épisode.
Bah oui, c'est l'essentiel du service que je fournis aux auditeurs, en fait, parce que il y a énormément de choses que les gens pourraient faire avec leur temps, et donc il faut que ce qu'ils choisissent de me consacrer leur temps plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Donc il faut effectivement leur apporter non seulement un moment qui est distrayant. Je pense qu'il faut qu'ils passent un moment. On n'est pas un podcast comique, hein, mais il faut que les gens passent un bon moment en écoutant. Et puis surtout, il faut qu'il y ait une valeur dans l'information ou l'analyse qui est apportée. Et donc oui, je passe énormément de temps à m'informer, bien sûr, et ça, c'est une veille qui est quotidienne. Et puis, il y a une autre partie qui est la compréhension des informations. Et pour ça, il faut lire encore plus, il faut écouter des podcasts, il faut regarder des vidéos. C'était un petit peu plus simple à l'époque où on parlait que de nouveaux smartphones et d'iPad et d'ordinateurs. Aujourd'hui, on parle carrément de sujets qui ont un trait à la société, quoi, à l'économie, à la politique, à la communication des marques. Ça change tout, la tech. Donc, ça prend évidemment beaucoup de temps.
Oui. Oui, parce que bon, là on enregistre aujourd'hui, on est le lundi 17 février, on est dans la polémique Benjamin Griveaux avec ses vidéos qui circulent, etc. Je sais pas si c'est un sujet que tu vas aborder ou pas, mais je me dis c'est impossible de passer à côté d'un sujet parce qu'il y a de la tech, de la politique, on rentre en plus dans des références même mondiales, géopolitiques, etc. Donc finalement on en vient à toucher énormément de secteurs par la tech.
C'est un petit peu le problème que me pose la tech et l'émission aujourd'hui, c'est où mettre la limite, parce que la tech est tellement j'ai des anglicismes qui me viennent, mais embedded, donc intégré à tous les aspects de notre vie, comme on le disait, que ça soit politique, économique, communication, pub, réseaux sociaux, relations, c'est partout. Il y a vraiment une question qui se pose, quand est-ce qu'on quitte un petit peu le domaine tech et qu'on arrive dans d'autres domaines? Mais évidemment, c'est des sujets qu'on évoque par l'angle tech et qui nous amènent à parler de plein de choses, mais on essaye toujours de garder. En fait, ce que j'essaye de faire avec l'émission, c'est d'expliquer les choses pour que les auditeurs aient une meilleure compréhension de ce qui se passe autour d'eux, parfois avant que ça ne se produise. Donc, quand ça arrive, ils disent « Ah ouais, ok, ça, je savais que ça pouvait arriver et ça pouvait se passer de cette manière. » Et parfois, quand ça se produit, pour aller plus… Parce que le grand problème, en fait, de la tech et des aspects tech, c'est que dans les médias traditionnels, ils sont très mal couverts. On en parle généralement dans des sujets qui font 90 secondes maximum parce qu'on est à la télé ou à la radio et qu'on n'a pas le temps. Et donc, on simplifie énormément et parfois, on fait des raccourcis qui nuisent à la compréhension des sujets. Donc, nous, on a une émission d'une heure, un petit peu plus par semaine. C'est pas trop de temps pour que ça soit ingérable. Beaucoup de gens écoutent dans les transports, bon, comme les auditeurs de ton podcast, je suis sûr. Et en même temps, ça te donne une, c'est assez pour avoir une vision un petit peu plus complexe des sujets dont on parle. Donc, pour répondre à la question sur Benjamin Griveaux, je pense qu'on va l'évoquer. Moi, j'ai eu des réactions assez, comment dire, contraires avec cette affaire. Qui se sont opposés, en fait, mes réactions. Et je vais peut-être spoiler un petit peu l'émission qu'on enregistre demain. Donc, je ne sais pas quand tu publieras cette conversation, mais...
Ça sera publié ça... après, parce qu'on publiera ça jeudi ou vendredi. Donc, ils l'auront écouté déjà. Ils l'auront écouté, ils sont...
Voilà, donc je ne sais pas ce que je vais y dire exactement, mais ma première réaction, ça a été... Ah ben voilà, il faut qu'un homme soit touché par un problème de revenge porn, de porno-divulgation, pour qu'on s'en émeuve. Et ça m'a frustré énormément parce que c'est un problème dont sont victimes énormément de femmes depuis longtemps. Et évidemment, on en parle ici et là, mais ça ne provoque pas l'ouragan médiatique que l'affaire Griveaux a provoqué. Ensuite, je me dis, bon, il y a quand même une dimension politique qui est importante dans l'affaire Griveaux, donc je comprends que ça ait un petit peu plus de portée. Et la méthode et l'affaire elle-même est frustrante et énervante et dégoûtante. Il semble que, bon, même si on n'a pas forcément de ce que je comprends, les détails sur ce qui se passe dans ces vidéos, bah, c'est le principe de la chose qui est une sorte d'assassinat politique. Et donc là, je me dis, oui, la chose est frustrante et je comprends qu'on en parle aussi. Et je suis, on va dire, entre guillemets, du côté de Griveaux, qui est la victime dans l'affaire. Et en même temps, et c'est là que je pousse parfois mes réflexions au-delà peut-être de la réaction épidermique qu'on peut tous avoir, et j'espère que ça aide les gens à mieux appréhender les choses. En même temps, ça m'a immédiatement fait penser au scandale avorté avec Donald Trump sur l'histoire de la prostituée russe et du fait qu'il était censé avoir soit uriné sur une prostituée, soit l'histoire de la Golden Shower. Et quand cette histoire était sur le devant de la scène, j'ai pas l'impression qu'on ait eu des réactions outrées sur la vie privée de Donald Trump qu'on aurait dû protéger. Et moi-même, je suis complètement dans cette optique. Je me suis dit, c'est pourtant bien du revenge porn dont on parle. Mmh. Mais parce que j'aime pas Donald Trump et parce que le personnage me paraît dangereux, tout à coup, j'étais complètement à l'aise avec l'idée que ces vidéos soient diffusées. Et donc, il y a cette ambiguïté, cette ambivalence dans mes réflexions que je ne sais pas faire entrer en adéquation avec... Enfin, ça reste... Et je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Mais c'est un truc que j'aime bien faire dans mes émissions, c'est prendre le contre-pied. Je me dis souvent que je suis l'avocat du diable. Prendre le contre-pied de la réflexion telle qu'elle est rapportée par la plupart des gens, pour essayer d'aller voir s'il n'y a pas une autre manière de le comprendre. Et là, c'est un truc dont je me suis rendu compte moi-même. Ma réaction par rapport à Griveaux, c'était « Ok, les femmes en sont victimes depuis longtemps, là, pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat ?» Bon, mais quand même, clairement, lui, c'est une victime aussi, le pauvre. Mais attends une seconde, j'aurais jamais dit le pauvre pour Donald Trump. Donc, comment réconcilier tout ça, je ne sais pas. Mais je pose les problèmes de cette manière dans l'émission. Je pense que c'est ce que j'aurais dit demain. C'est ce que j'aurais dit demain quand vous entendrez cette émission.
Ouais, mais c'est intéressant parce que tu as bien résumé finalement la philosophie et tout l'aspect du podcast qui est finalement une discussion. Parce que, on l'a pas dit, c'est que tu n'es pas tout seul. Donc, tu as trois intervenants au maximum. Je ne sais pas combien vous le faites au maximum.
Oui, entre un et trois, on va dire. On est un, ouais, c'est ça.
Donc généralement en plus des habitués, hein, il y a un petit, alors je sais pas si on peut appeler ça une petite bande, mais c'est
sûr, des petits copains. En fait, j'essaye d'avoir des gens différents. Il y a des gens qui reviennent régulièrement, mais c'est vraiment un panel. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'émissions, et c'est d'ailleurs une des choses qui demande énormément de travail, on a des gens qui tournent et il y a des nouveaux souvent. C'est des panels qui tournent tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est une grosse, qui apporte une grosse valeur à l'émission, parce qu'on n'a pas juste les mêmes avis en boucle. Et il y a des compétences et des expertises qui sont différentes et qui amènent beaucoup de valeur et de richesse à l'émission. Et oui, on en discute. Et moi, j'essaye consciemment, souvent, de prendre le contre-pied, même si c'est d'un avis qui est le mien, j'essaye d'aller prendre le contre-pied aussi. Donc souvent, je vais contredire les autres et voir si mon avis contraire tient la route ou si c'est pour le principe et qu'en fait, ça tient pas, quoi.
Ouais, mais en fait, des fois, j'ai même l'impression que c'est une manière pour toi de réfléchir et d'éclairer le monde un petit peu, de réfléchir sur le monde, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, la réflexion que tu as comme ça, je sais pas si elle tourne dans ta tête, j'imagine, elle aurait tourné dans ta tête si tu faisais pas du podcast, mais au bout d'un moment, c'est bien quand même d'arriver à la sortir, de l'exprimer, d'avoir du retour, d'avoir des gens. J'imagine que t'as énormément de réactions, et demain, je pense que t'auras beaucoup de réactions quand l'épisode sera publié, parce que ça va pas plaire à tout le monde, une position comme ça.
Bah écoute, oui, et pour bien comprendre, je suis pas en train de dire que le revenge porn est acceptable parce que j'aurais trouvé ça normal avec Trump. C'est juste que ça m'interpelle que j'aurais pas trouvé ça si dérangeant avec Trump, alors que sur le principe, je suis évidemment horrifié par la pratique. Et je dis pas que, et j'ai pas de réponse là-dessus, mais oui. Cette réflexion interne et cette réflexion de discussion avec d'autres, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et pour moi, là, on revient à mon parcours de podcasteur. Quand je dis que je suis tombé amoureux du format quand j'ai lancé Azeroth.fr, c'est vraiment quelque chose de viscéral. C'était un coup de foudre. C'est l'équivalent professionnel de ce qui s'est passé avec ma femme quand je l'ai rencontrée. C'était complètement quelque chose qui me correspond parce que moi, j'ai besoin de m'exprimer. Je dis souvent que je fais du podcast parce que j'aime bien m'entendre parler. Et il y a un petit peu de ça, tu sais. C'est quelque chose qui est que j'ai besoin de faire et de dire ce que je pense. C'est quelque chose qui est très profondément ancré dans ma psyché, quelque chose d'un petit peu égocentrique peut-être. Mais bon, heureusement, les gens ont l'air d'apprécier mes opinions, en tout cas de vouloir les écouter. Mais oui, il y a une réflexion interne qui est toujours là, et c'est une sorte de moyen de laisser sortir tout ça aussi, ouais.
À l'époque, quand tu lances Azeroth, je pense que tu n'as aucune idée. Mais aucune idée que tu deviendrais professionnel du podcast quelques années plus tard.
Ah bah non, c'est pas... Oula, pardon, j'ai lancé une vidéo. C'est quelque chose qui n'existe... En fait, à l'époque, non seulement moi, j'y pensais pas, parce qu'à ce moment, ça m'a plu, mais j'ai tout de suite voulu... Je me suis tout de suite dit, ah, ça serait quand même cool de pouvoir faire ça toute la journée. Mais à l'époque, on est quand même en 2006... Ça, c'était un truc, c'est comme dire, je sais pas, moi, j'aimerais bien faire c'est même pas comme dire faire du dessin ou faire de la musique toute la journée, parce que ça, c'était des métiers qui existaient. Dessinateur, illustrateur, ça existe. Musicien, ça existe. Podcasteur, alors YouTube n'existait même pas, c'était deux chats sur des skateboards. Donc même YouTuber, il n'y avait pas d'équivalent. Blogueur à la limite, mais enfin, c'était pas la même chose. Podcaster, c'était un métier qui n'existait pas. Les gens savaient pas ce qu'étaient les podcasts. Pour écouter un podcast, il fallait aller sur iTunes. C'était iTunes qui était le plus utilisé dans ce domaine. Aller sur iTunes, le télécharger, synchroniser avec son iPod. Enfin, c'était hyper confidentiel. Donc j'aurais aimé... Mais c'était vraiment, vraiment compliqué. C'est devenu possible beaucoup plus tard. Mais oui, c'était quelque chose qui m'a tout de suite parlé et qui m'a donné envie tout de suite, c'est certain.
Comment tu fais le switch, en fait, de Azeroth au rendez-vous tech, finalement? Comment tu changes de sujet comme ça? Comment t'en es venu à changer de sujet, en fait?
Écoute, la tech, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément plu. Et qui est comment dire, j'ai deux passions dans la vie, enfin j'en ai plein, mais deux passions principales, d'une part la tech et d'autre part le jeu vidéo. Et j'ai toujours eu envie de parler de tout ce qui m'intéresse. Donc la transition a été assez naturelle. En plus, il y avait déjà des podcasts sur la tech dans l'univers des podcasts, assez peu en français, voire pas du tout en français. Et donc là aussi, j'avais envie d'amener la chose dans notre pays. Et c'était une transition qui était pour moi assez naturelle. Et j'ai lancé d'ailleurs des podcasts en anglais, comme je le disais, et un autre domaine qui m'a intéressé, là où ça s'est fait assez naturellement, c'est... Le Phileas Club, qui est une autre émission, je ne sais pas si tu l'écoutes, mais J'ai tout de suite, je me suis tout de suite dit, c'était aussi en 2009 que je l'ai lancé, je crois, il y a la possibilité d'entendre ce que les gens, ce que les vrais gens disent et pensent. Avec le podcast, parce qu'on n'a pas des journalistes, on n'a pas des équipes, des énormes studios, on n'a pas des limites de temps, et le ton est très différent. Donc moi, j'ai et avec Skype, on n'a pas besoin d'avoir des connexions téléphoniques, des connexions satellites, parce que j'étais donc intermittent, j'ai aussi travaillé dans le spectacle, et quand on fait de la diffusion, quand on faisait de la diffusion d'un endroit à un autre, il fallait réserver un faisceau satellite, quoi. Ça coûtait très très cher, c'était, enfin bref. Donc avec Skype, j'ai commencé à inviter des gens de différents pays et à discuter de l'actu et à avoir leur point de vue sur ces choses-là. Donc cette idée d'avoir des points de vue différents, de confronter des opinions, est vraiment présente dans tout ce que je fais, même dans le jeu vidéo, qui est peut-être le domaine le moins propice à la discussion par opposition, on va dire, encore que. Mais oui, donc c'est cette émission aussi, j'invite des gens de n'importe où, et j'ai eu des émissions où on a un Saoudien, un Américain, un Thaï, un Israélien qui vont se retrouver et discuter de ce qui se passe dans le monde et s'écouter. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Oui. Pardon, j'ai un petit peu dévié de la question que tu
posais. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'un espace de discussion actuellement sur à l'ère des réseaux sociaux. C'est pas si commun que ça finalement des gens qui arrivent à discuter ensemble. C'est aussi ça qui fait je pense, la force et pourquoi les gens ils écoutent, pourquoi ils vont aussi donner de l'argent sur Patreon et on va en reparler. Mais finalement c'est aussi parce que cette place de la discussion, si on regarde les chaînes d'infos, moi que je regarde plus parce que ça, c'est si on regarde les médias etc, c'est tout tranché, les réseaux sociaux sont extrêmement tranchés, les gens ne se parlent plus entre eux et d'un coup toi au milieu, justement t'organises cette discussion.
Je crois que c'est là encore, c'est quelque chose qui est viscéralement, qui fait partie de ma personnalité. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle quand j'étais plus jeune. Je suis, si on pense en termes de Donjons et Dragons, true neutral, vraiment neutre. C'est-à-dire que je suis pas chaotique bon, lawful neutral, je sais plus comment sont les termes en français, mais lawful good ou je sais pas quoi. Je suis vraiment neutre. Et j'ai souvent tendance à aller à l'opposé de ce que je vois comme la tendance qui prévaut. Et évidemment, comme tu l'as fait remarquer, et c'est un truc que j'ai senti il y a bien longtemps, les opinions tranchées et l'absence d'écoute de l'autre est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années, et donc ma réaction a été d'aller à l'inverse. Je pense que il est même pas impossible que si la tendance générale si la tendance générale était le consensus, je ferais des émissions où je mets des avis hyper tranchés, juste par esprit de contradiction. Je sais pas si ça se produirait, mais en tout cas, il est certain que cette tendance est très présente chez moi. Et je me souviens d'un autre exemple. On revient toujours à Trump parce que c'est quelque chose de très tranché et c'est un sujet dont on a évidemment beaucoup parlé dans mon émission anglophone. Mais je me souviens de certains podcasteurs, ou je ne sais plus si c'était des podcasteurs ou des animateurs radio, qui avaient été, après les élections de 2016, faire des interviews d'Américains qui étaient contre Trump. Et il présentait ça, c'était des Français. Hein. Et il présentait ça très fièrement sur Twitter en disant, le titre c'était un truc du genre « Cette Amérique qui déteste Trump » ou « Cette Amérique qui est contre Trump » ou je ne sais pas quoi. Et j'ai vu ça et ça m'a vraiment frustré. Parce que cette Amérique qui est contre Trump, elle est évidente pour nous surtout. Évidemment, on les comprend tous, on n'a pas besoin d'aller les écouter pour comprendre ce qu'ils veulent et ce qu'ils disent et pourquoi ils sont contre Trump. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les gens qui ont voté pour Trump. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés voter pour lui? Est-ce que c'est tous des néo-nazis? Franchement, je ne crois pas. Mais alors justement, pourquoi? Et aujourd'hui, on le comprend un petit peu plus avec les mouvements qu'on a vu éclore partout, ces mouvements anti-establishment, qui sont presque là, presque pour faire un doigt d'honneur à ce qui existe déjà et ce qui a été présent depuis longtemps. Mais pour cette histoire, je suis allé demander sur Twitter à la personne et j'ai dit « Ah bon, ok, intéressant, mais est-ce que vous avez prévu d'aller poser des questions aux gens qui sont pour Trump ?» Il me dit, ah non, c'est pas prévu pour le moment, mais moi, ça m'a vraiment, vraiment frustré. Et encore une fois, Trump, c'est vraiment pas ma tasse de thé, c'est pas quelque chose que c'est pas quelqu'un avec qui je m'aligne du tout. Mais le fait d'aller, ce qui est intéressant, c'est d'aller justement explorer ce qu'on comprend pas. Et je dis ça au sens le plus profond de la chose, ce qu'on ne comprend pas. Mm. Moi, je comprends pas comment, ou peut-être je comprenais pas comment quelqu'un pouvait aller voter pour Donald Trump. Et donc, je suis allé leur poser la question. Et trop souvent, c'est parfois le cas dans les podcasts, mais trop souvent, en particulier sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télé, on va juste, c'est les fameuses bulles, mais c'est au-delà des bulles, ça renforce notre, nos avis. On n'écoute que les gens avec lesquels on est déjà d'accord. Et moi, aller parler avec des gens qui ont voté pour Donald Trump, ça m'a pas fait tout à coup, ça m'a pas donné envie de voter pour Trump ou ce genre de choses. Mais par contre, j'ai compris leurs préoccupations, j'ai compris leur état d'esprit un petit peu plus. Et vous serez très surpris peut-être de comprendre que c'est des gens qui sont des gens normaux, des gens qui aiment des choses comme vous et moi, qui ont juste des avis un petit peu différents sur certaines choses. Bref, là encore, je suis désolé, hein, comme tu le comprends, j'aime beaucoup m'entendre parler, donc je fais des très longues réponses. Mais ça aussi, ça fait partie du naturel avec lequel toutes ces émissions me sont venues, parce que c'est des choses qui me paraissent importantes. Et mon approche de tous ces problèmes, y compris dans les problèmes de la tech, parce que dans la tech, il y a des problèmes essentiels qui se posent. C'est des problèmes sur la manière dont on va, par exemple, hein, dont on va gérer la, entre guillemets, censure qu'appliquent les réseaux sociaux. Mm. Les bulles qui vont renforcer nos opinions sont contrôlées par ces géants de la tech. Est-ce qu'il faut leur dire quoi faire? Est-ce qu'il faut leur laisser les clés? Est-ce qu'il faut, au contraire, légiférer? Toutes ces solutions, c'est pas des solutions simples, c'est des solutions qui ont des aspects positifs et des aspects négatifs. Si quelqu'un va vous dire, moi j'ai la réponse, il faut faire une loi pour faire ça, je peux vous garantir que cette personne a mal compris le problème. Si l'autre personne va dire, il faut que YouTube retire toutes ces vidéos qui sont problématiques pour telle et telle raison, il n'y a pas de raison qu'il les laisse sur Internet, et ben pareil, cette personne aura mal compris le problème. Et quand on comprend mal les problèmes, on conçoit des solutions qui ne les résolvent pas. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre et de comprendre tous les aspects de ces problèmes. Donc ça se retrouve aussi dans la tech.
Est-ce que, alors des fois, tu vois, c'est genre de préoccupation, on se dit, mais est-ce que les hommes politiques, quand on voit les lois qui, et puis avec près l'affaire Benjamin Griveaux, ça va être extraordinaire, on va assister à un florilège de nouvelles lois, de propositions, etc. T'as pas envie d'en inviter un de temps en temps pour échanger sur ces sujets-là, pour essayer de comprendre aussi finalement comment ils se positionnent, comment ils réfléchissent à ça, eux, de leur côté, parce que t'as une démarche finalement qui est très journalistique. Dans cette approche-là, on pourrait dire que t'as des journalistes, t'as des blogueurs, t'as des gens qui sont sur les médias qui sont très habitués à ça, mais finalement, d'avoir des gens qui sont peut-être moins habitués pour en discuter, ça peut pas être quelque chose qui te chatouille.
Alors d'abord, je sais pas si je suis un journaliste, j'ai pas de formation journalistique, je pense que le travail des journalistes est éminemment important, les journaux et magazines sont essentiels à la vie en société. Mais moi, je ne suis pas convaincu d'être un journaliste moi-même. Je pense que j'ai une approche assez éthique, assez morale de mon travail, mais je ne sais pas si je me qualifierais comme un journaliste. Bref, discuter avec les hommes ou les femmes politiques directement, je l'ai jamais fait. Et au-delà de ça, j'ai tendance à éviter... ça m'est arrivé par d'autres biais, mais au-delà de ça, j'ai tendance à éviter les formats type interview. Mm. J'invite pas ou très très rarement, de responsables de société ou de présidents de société. On me le propose hein, régulièrement. Il y a des startups qui me disent oh, on pourrait vous parler de ceci et de cela. Je l'ai fait très très rarement et à chaque fois, c'est un format qui ne me convenait pas parce que c'est des gens qui sont là pour vendre leur truc. Mmh. Et les hommes et les femmes politiques, peut-être qu'un jour ça se fera, je ne sais pas. Ça serait intéressant pour comprendre le processus peut-être, mais je crois qu'au-delà de ça, moi je crois que je comprends les problèmes qui se pose à ces gens-là. Et que le problème ne vient pas du fait que les hommes... En gros, je court-circuite un petit peu ta question. Beaucoup de gens dans notre audience se disent sans doute que les hommes et les femmes politiques ne comprennent pas la vraie nature des vrais problèmes. Je crois que ce n'est pas ça, la réalité de la situation. Ils ont des gens qui travaillent. Alors eux, peut-être que directement, il est impossible de comprendre tous les problèmes de toute la société. Moi, je parle de tech, et moi-même, dans la tech, il y a des problèmes qui sont tellement spécifiques, dans les questions de la sécurité informatique, de la cryptographie, de l'intelligence artificielle. Moi, je suis généraliste. Je comprends un petit peu de tout, mais je ne comprends pas très spécifiquement les fonctionnements de ces domaines très, très pointus. Et c'est pareil dans toute la société. On ne peut pas demander à une personnalité politique de comprendre tout ce qui se passe dans le domaine de la tech, de l'économie, de l'agriculture, de la médecine. Et donc, ils ont des personnes qui vont pré-mâcher le travail parce que c'est des gens qui vont mieux comprendre. Et je pense que ces problèmes sont compris dans leur ensemble parce qu'ils ont des personnes qui travaillent bien pour eux. Le vrai point noir dans tous ces sujets, c'est que même quand on comprend les problèmes, c'est les solutions qui sont compliquées. Parce que si une solution tire d'un côté, elle va accentuer le problème de l'autre côté. Et quand des solutions sont proposées, elles vont peut-être résoudre certains aspects d'un problème, mais mécaniquement en provoquer d'autres ailleurs. Et il est très facile pour le public et pour les citoyens que nous sommes de regarder ça et de dire « Ah ben voilà, les politiques, ils comprennent encore rien et ils foutent la merde partout ». C'est pas comme ça, en fait, la réalité. C'est pas ça, la réalité de la situation. C'est qu'ils essayent de résoudre un aspect d'un problème et que forcément, ça va... en poser d'autres ailleurs. Et si on pointe du doigt les problèmes que vont poser chaque solution, c'est un truc que je dis souvent, une solution parfaite, ça n'existe pas. Et en particulier aujourd'hui, avec le microscope sous lequel sont placées toutes nos discussions et les discussions des hommes et des femmes politiques, on va trouver des effets de bord partout. Et si on se focalise sur les effets de bord pour invalider toutes les solutions, enfin, pour invalider une solution, il n'y a aucune solution qui tient sur rien, parce qu'il y a toujours des effets de bord. Donc, l'important est de comprendre, est-ce que les effets de bord sont acceptables? Est-ce que le problème ou la solution est pire que le problème? Mais de manière objective. Donc, tout ça pour dire que moi, je suis un observateur. Peut-être que je parlerai à des hommes et des femmes politiques un jour, c'est possible. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser ce qu'ils proposent et de le comprendre objectivement. Pas de le comprendre en ayant déjà un flingue dans la main pour descendre la proposition parce qu'elle vient de tel ou tel bord ou parce que je ne suis pas d'accord avec le principe à la base. Et c'est pour moi ça qui est plus important que de leur parler directement.
Ouais, mais tu vois, c'est vraiment ce que je te dis, c'est que c'est là où t'as une démarche journalistique, éthique, etc., qui est peut-être que on retrouve pas actuellement dans plein de médias, etc., parce que c'est comme ça, ça fonctionne aussi, parce que les médias, faut le dire, sont anglais, hein, la plupart du temps, c'est des questions d'audience, d'audience cible, de qui ils veulent parler, de qui ils veulent viser, donc des fois, ils osent pas trop, ou alors ils renforcent sur leur côté... aller dans un sens plutôt qu'un autre, mais en fait t'es vraiment dans la démarche de dire moi tiens on va aller gratter un petit peu en prenant un petit peu tous les côtés etc, et c'est vraiment l'essence même du journalisme, hein. Tu sais, moi j'ai formé des journalistes dans certaines formations et c'est ce qu'on leur apprend en fin de compte, et on leur apprend aussi qu'un journaliste n'est pas celui qui a une carte de journaliste mais celui qui fait finalement une action, tu vois, d'aller chercher cette information là et d'aller gratter. Donc pour ça qu'en ce sens là tu l'es peut-être plus que tu ne le penses, c'est assez amusant. Non mais c'est toujours comme ça en fait, on se rend pas compte, on devient quelque chose en fait en faisant, et c'est vrai que la manière dont tu fais tes contenus est extrêmement intéressante, et c'est intéressant de discuter de ça pour bien comprendre en fait la philosophie, parce que ça montre aussi tout le fond qu'il y a derrière ce que tu produis, et je pense aussi pour ça, c'est ce qui fait la clé du succès, aussi pour ça qu'il y a des gens qui finalement, on va arriver sur le mode de financement, pourquoi il y a des gens qui donnent de l'argent alors que tout ça est gratuit, qu'on pourrait écouter tout ça sans aller sur Patreon, donner de l'argent, etc., et que pourtant il y a plein de gens qui trouvent que c'est vital, j'ai envie de dire, ou en tout cas essentiel dans leur quotidien, cet aspect-là.
J'aimerais revenir à tout tout petit peu, juste une seconde sur la question du journalisme, parce que je crois qu'il est facile de les, on dit là encore en anglais, de les envoyer sous le bus. De dire, ah ben les journalistes sont comme ci, ils sont comme ça, ils font pas bien leur travail. Comme je l'évoquais tout à l'heure, je pense que leur travail est complètement essentiel. Et ils font des choses, en particulier le journalisme d'investigation, qui existe absolument dans le... Il y a une partie du journalisme, en particulier à la télévision pour les chaînes 24 heures, qui est souvent déformée, je crois, parce qu'il faut occuper le terrain. Et il y a un sujet sur lequel on se concentre. Ouais, l'espace de les 24 heures, quoi. Et il y a un sujet sur lequel on se concentre. Et il est, du coup, on crée une panique là où... Et on a deux minutes pour traiter un sujet spécifique, mais bref, c'est un format qui, à mon sens, exacerbe les défauts de certaines parties de la profession, même si les journalistes qui y sont engagés sont souvent des gens qui ont une pratique qui est tout à fait louable. Et donc cet aspect est effectivement peut-être un peu dommageable, mais il y a beaucoup d'aspects aussi entités journalistiques, des mêmes sociétés, qui est important aussi, en particulier peut-être un petit peu plus dans le domaine de la presse, avec des enquêtes au long cours qui sont essentielles. C'est de là que vient l'information, en fait. Moi, je commente le travail d'autres journalistes. Mmh. C'est pas moi qui vais aller rechercher, lever les lièvres, ou même aller dans une, si on parle de sujets plus légers, aller dans une conférence pour voir ce qui s'y dit et ce qui s'y fait et ce qui est présenté. Donc, encore une fois, je crois qu'il est facile, et on peut avoir tendance, et peut-être que certains auditeurs voient les choses de cette manière, de dire, oh ben, les journalistes aujourd'hui, les journalistes traditionnels, mainstream, c'est inutile, c'est de telle ou telle tendance, machin. Moi, je pense pas. Je pense que pour encore plus qu'à n'importe quel moment de notre histoire, justement, ce journalisme est important. Et voyez le nombre de lièvres qui ont été levés par ces entités, alors parfois des gens un petit peu plus indépendants, parfois des grosses entités établies en France et dans le monde anglophone, et vous verrez que les vrais problèmes, ils ne sont pas levés par des YouTubers dans leur chambre en pyjama, ou des podcasteurs comme moi qui font ça depuis la campagne finlandaise. Donc, bref, voilà, je voulais préciser ça. Ensuite, la question du financement est effectivement hyper intéressante. Depuis 2014, je suis financé par Patreon, donc par des auditeurs qui soutiennent directement l'émission. Pourquoi est-ce que les gens donnent ? Je crois qu'il y a une partie, mine de rien, de mon approche, comme tu le disais, qui y plaît. Qui est à la fois cet aspect, bah, on passe un bon moment en m'écoutant, et puis on a des informations intéressantes, et puis on a des analyses intéressantes, donc il y a une valeur ajoutée. Et puis, mine de rien, le podcast est un format très personnel, et je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui me connaissent, finalement, qui ont une relation très particulière avec moi, et je ne dis pas ça uniquement parce que c'est du podcast, mais on interagit sur Twitter, de plus en plus sur Instagram aujourd'hui aussi. Les gens qui me soutiennent, certains ont accès à un Slack où on parle beaucoup. Moi, c'est devenu une partie essentielle de mon interaction sur Internet, ce Slack. Mais même ne serait-ce que par le podcast en lui-même, il y a une relation très proche qui se forge avec les auditeurs. Et moi, je suis dans la vie comme je suis dans l'émission, presque, à peu de choses près. Donc, c'est très différent de... c'est très différent, là encore, des journalistes traditionnels. C'est des gens qu'on ne connaît pas, qui sont loin, qui sont distants, avec même la... quand ils parlent de sujets intéressants, ils en parlent d'une manière qui met de la distance. Tu vois, moi, c'est pas comme ça que je parle. Moi, je parle maintenant, je parle dans les émissions. Donc, on se connaît. Et quand je leur dis « j'ai besoin de vous pour faire mes émissions », elles sont accessibles gratuitement, mais si les gens ne soutiennent pas sur Patreon, ben les émissions ne peuvent pas exister telles qu'elles existent aujourd'hui, et ben ça leur parle. Et ça les encourage à me soutenir. Donc, et il y a cette... C'est vraiment... Maintenant, il y a un petit peu de pub dans les émissions aussi, un tout petit peu, mais il y a un équilibre qui est hyper important. L'un des gros problèmes du journalisme, c'est le moyen de financement. Mmh. Il y a eu, à l'époque d'Internet, une transition qui s'est effectuée où les médias se reposaient sur un certain nombre, et en particulier les médias papier, se reposaient sur un certain nombre de revenus, de flux de revenus, pour se financer. Il y avait évidemment la pub qui était importante, il y avait les petites annonces, il y avait le prix du magazine ou du journal qu'on allait acheter, et des subventions peut-être. Donc il y avait plusieurs moyens de faire entrer de l'argent. Avec Internet, tous les autres moyens que la pub se sont peu à peu effacés. Et donc la plupart des médias, maintenant ils sont en train de trouver d'autres moyens et de faire marche arrière, mais la plupart des médias se sont retrouvés à se reposer à 100% sur la pub. Et ça, évidemment, ça conditionne le média et c'est extrêmement dangereux. Et moi, mon approche a été très différente. Au départ, c'était 100% le Patreon. Aujourd'hui, comme je le disais, il y a un petit peu de pub aussi parce que je pense que cet équilibre est important. Ne serait-ce que si demain Patreon explose, bah moi, il faut que j'ai des rentrées d'argent parce que c'est pas prévu, c'est pas parti pour. Hein. Patreon va très très bien, mais il faut cet équilibre. Mais sans le soutien des Patreons, si imaginons. Enfin, un podcast qui se repose entièrement sur la pub, à moins qu'il y ait énormément d'entrées et qu'on puisse se faire des choix. Et peut-être qu'un jour, le média arrivera, comme c'est le cas dans le domaine chez les Anglais, chez les Américains. Peut-être que ça arrivera en France aussi, mais on n'y est vraiment pas encore. Et cet équilibre est très important. Et au-delà de ça, le Patreon représente de très, très loin l'essentiel donc, de mes revenus. Donc, les gens comprennent que s'ils ne m'aident pas, l'émission n'existe pas. Donc, c'est, je pense, cette démarche qui est essentielle à l'envie de soutenir.
Oui, mais en fait, j'ai eu quelqu'un de chez Tipeee, on avait fait un épisode spécialement sur Tipeee, avec quelqu'un de Tipeee, qui expliquait exactement que la plupart des gens donnaient aussi sur Tipeee pour cette volonté que continue, que le fait que ce qu'ils aiment bien finalement continue, que l'esprit continue, etc. Et même d'ailleurs les contreparties, certains n'y font pas tant attention que ça. Alors après, certains peut-être plus que d'autres, hein, toujours est-il que j'imagine, et puis on le sait, hein, quand on cite les noms des patrons dans les épisodes, et il y a toujours un petit retour, ils sont toujours assez fiers, il y a des choses comme ça. Le fait aussi de pouvoir discuter, d'avoir accès directement à toi aussi, j'imagine que ils sont assez fiers de pouvoir d'avoir accès à ça, donc ça fait partie des contreparties intéressantes. Mais finalement, c'est ce qu'il me disait, c'est que les contreparties sont pas toujours finalement c'est pas l'essentiel de ce qu'ils veulent. Souvent, ce qu'ils veulent, c'est juste que ça continue comme ils aiment en fait.
Oui, complètement. Il y a plein de gens qui s'en foutent. Je dirais même les bonus, c'est sympa, les contreparties, c'est sympa, mais c'est pas la motivation principale pour la plupart des gens. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les bonus ne sont pas un truc cool aussi. Mais oui, disons qu'il y a une mécanique dans le soutien participatif qui est très forte pour les gens qui sont très amateurs. Et il y a une sorte de dualité, d'ambivalence, d'ambiguïté entre les gens qui se lancent. Comment dire ? Moi, j'ai été très clair dès le départ. J'ai dit, je veux en vivre, je veux que ça soit mon métier et je veux en faire de l'argent. L'argent n'est pas ma motivation principale. La motivation principale, c'est de faire du podcast. Mais je ne suis pas une association. Je ne suis pas un amateur. Je ne suis pas quelqu'un qui fait ça pour le fun. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, malheureusement, je crois, chez d'autres podcasteurs. Il y a beaucoup qui, quand ils essayent de se lancer dans le financement participatif, limite, ils s'excusent de demander de l'argent. Et ça, je crois que c'est pas... Enfin, ça dépend. Si vraiment les gens veulent faire ça à côté de leur boulot, très bien. Vous pouvez... Enfin, il y a plein de podcasts amateurs qui sont super cool et que j'adore et que parfois je soutiens. C'est très, très bien. Mais... À un moment, moi, j'ai pris un gros risque, j'ai quitté mon boulot et je me suis lancé pour en faire mon vrai travail. Et il y a, je pense, moi, je suis convaincu qu'il y a d'autres personnes qui pourraient faire ça, mais en France, mais qui ne le font pas parce que ce n'est pas leur choix. Mais donc, tout ça pour dire que la motivation de donner pour que ça continue est évidemment super importante, mais je crois qu'elle est un petit peu différente chez les gens qui font ça en tant qu'amateur et chez les gens qui sont lancés en tant que professionnels. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une société, j'ai des impôts à payer, pas des impôts personnels, mais des impôts de société à payer, des charges. Là, je suis en train d'essayer de... Enfin, j'ai engagé une personne qui va m'aider en freelance. D'ailleurs, le revenu de la pub aide énormément pour cet aspect de, du travail. Et donc, le rapport, je crois, avec les auditeurs change un petit peu. Et les le rapport avec les gens qui soutiennent change un petit peu. Bien sûr, ils m'aident parce qu'ils veulent que l'émission continue, mais c'est peut-être un petit peu moins on t'aide à te lancer. Et je crois que ça, c'est une approche qui est différente dans notre relation. Et je crois qu'il y a toujours énormément de, d'envie chez les gens qui écoutent et chez les gens qui soutiennent. Et moi, ce que je leur dis, c'est que c'est pas on m'aide à lancer le truc et c'est pour pas que ça s'arrête. C'est on soutient un type de un type de média, un type d'approche dont on a parlé beaucoup jusqu'à maintenant. Et pour que ce type de contenu, ce type d'approche existe, il faut que les gens soutiennent. Mm. Pas tous, il y a beaucoup d'auditeurs et une partie, une petite partie soutient. Mais si personne soutient, ça ne fonctionne pas. Si tout le monde se dit « Ah bah c'est bon, il y a la pub, il y a d'autres qui donnent bah, », ça s'effondre. Mm. Donc il faut que les gens soutiennent pour que le média existe. Pas juste, et pour que cette méthode existe, pas juste pour que les gens se lancent. Ce qui est un petit peu quand les gens se disent « Oh, bah, je veux aider », c'est un petit peu dans cet esprit. Mm. Mais là, on est au-delà. Et c'est ce que je dis souvent d'ailleurs. Regardez le nombre de podcasts qui existent depuis plus de 2-3 ans. Mm. Les podcasts souvent qui existent depuis, qui n'ont pas de financement sérieux, ils finissent par s'arrêter. Ou alors ils ratent un épisode de temps en temps, ils font un épisode par mois et encore. Tu vois, c'est moi je fais un épisode par semaine, on bosse quoi. Mm. C'est du sérieux. Donc
Oui, puis la régularité paye parce que ça fait on le dit, ça fait 14 ans que tu fais du podcast, ça fait des années que ces émissions existent. Ceux qui voudraient se lancer maintenant, qui disent "Oh là là, il arrive à se financer, à faire que du podcast toute la journée, ça doit être super top." Alors en plus, je pense qu'il faut quand même démystifier le côté, c'est que y a un côté où tu ne fais pas que du podcast. T'as dit t'as une société, donc j'imagine t'as de la gestion, t'as des l'administratif, puis y a toute une partie. Tu disais un petit peu hein, pour organiser tout ça, pour arriver à planifier, pour y a quand même beaucoup de choses. Et puis t'es papa aussi, donc le temps de faire du podcast, c'est finalement le temps d'antenne, j'ai envie de dire, hein, sur la semaine, il est relativement faible par rapport à la masse de travail qu'il y a tout autour.
C'est sûr, oui. Et puis le temps d'antenne en lui-même, tu sais, c'est vraiment crevant. Je pourrais pas faire du podcast toute la journée. C'est pas Twitch où je stream toute la journée. Mmh. C'est un truc auquel les gens ne pensent pas forcément. Mais quand je suis en train d'animer une émission, je suis pas juste en train de parler. Quand je vais dans l'émission de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus facile. Mais quand je suis en train d'animer une émission, je réfléchis à ce que tout le monde ait du temps de parole. J'essaye d'expliquer très bien les sujets pour les gens qui connaissent ces domaines. Et les gens qui ne connaissent pas bien, il faut que les gens puissent comprendre. J'essaye de fournir une analyse intéressante. J'essaye de faire en sorte que ça soit quand même pas marrant, comme je le disais, c'est pas une émission comique, mais que ça soit un bon moment, parce que sinon les gens vont arrêter d'écouter et donc ils n'ont plus les bénéfices de la compréhension de la tech. J'essaye de faire en sorte qu'on reste dans les temps. Enfin, c'est moi je finis une heure d'émission, je suis sur les rotules. Donc effectivement, ce n'est pas juste enregistrer tout le temps. Mais oui, il y a de l'administratif. Hein, les jours où je dois faire les comptes, c'est... Ah merde, j'ai oublié de faire les comptes la semaine dernière. Oh là là. J'ai complètement oublié. Bref, oui, il y a les comptes à faire. Il y a les charges à gérer. Enfin bref, c'est énormément de boulot. Il y a le petit qui court partout aussi. Mais ça, bon, tout le monde... Il y a plein de gens qui ont des enfants. Il y a la veille qui prend beaucoup de temps, le scheduling, trouver les invités, s'assurer que tout le monde est disponible. Ah non, telle personne ne peut pas à midi. Ah, on peut le faire à 9 heures plus tôt. Ah oui, mais alors est-ce que l'autre invité, il peut aussi? Enfin, ça prend énormément de temps. Donc oui, c'est un truc que je ne pourrais pas faire de cette manière si je n'étais pas à temps plein. Et j'irais même jusqu'à dire que moi, je suis professionnel depuis 2014. Ça fait quand même un bon moment. Avant ça, j'avais commencé en 2006. Donc j'ai encore aujourd'hui, ça fait 5 ou 6 ans que je suis professionnel, je l'ai fait en tant qu'amateur pendant beaucoup plus longtemps, mais même en tant qu'amateur, j'avais l'habitude de dire que j'avais deux boulots. J'avais mon vrai boulot et un boulot à mi-temps que je faisais en plus. Et c'est vraiment, ça me prenait un mi-temps en plus, quoi. C'était un truc qui prenait énormément de temps et de travail et que je faisais parce que j'adorais ça et que je fais toujours parce que j'adore ça. Mais même avant que je me lance en tant que professionnel, c'était déjà un boulot en quelque sorte, à peu de choses près, parce que je faisais beaucoup d'émissions.
Oui, mais moi, tu sais, je disais, j'ai longtemps dit que j'avais mon boulot du jour et mon boulot de nuit. Mes contenus étaient mon boulot de nuit pendant 20 ans, en fait, tout simplement. C'est quelque chose... Mais en fait, les gens s'en rendent pas compte, en fait, de ça. Parce qu'il y a très peu d'étoiles filantes qui arrivent très, très vite à percer sur YouTube. Alors, bien sûr, on trouvera toujours les Janelle et compagnie. On se dit, ah, comment il fait pour avoir 3 millions en 3 jours? Mais il y en a combien sur des millions et des millions et les quelques milliers qui ont percé? C'est une stat que je donne souvent, PewDiePie a mis peut-être 100 vidéos pour avoir 1000 abonnés. Donc, ce qui paraît totalement incroyable quand on dit ça, quand on voit le nombre d'abonnés, mais oui, en fait, au bout d'un moment, il a fallu quand même qu'il produise avec une régularité, une constance et un planning avec une habitude, etc. Puis apprendre beaucoup, hein. Il y a énormément de choses à apprendre pour arriver à faire ça. Je me rappelle d'ailleurs d'une vidéo, c'était Corben qui avait dû faire un reportage sur toi, on te voyait en train de méditer, on voyait un petit peu tes routines, etc. Je sais pas si t'as des trucs comme ça qui tu sais, des astuces pour organiser ta journée, pour structurer ta journée, pour arriver à finalement aussi peut-être à un moment donné dire peut-être que je m'arrête, que je fasse une pause, parce que quand on est toujours là-dedans, c'est compliqué aussi.
C'est très compliqué de s'arrêter. C'est le problème de bosser de la maison et de bosser en tant qu'indépendant. Et surtout, c'est le problème de bosser dans un domaine qui est aussi mes passions. Parce que quand je bosse pas, je fais quoi? Je m'informe sur la tech, ce qui se passe en tech, où je vais regarder ce qui a été annoncé dans le jeu vidéo, où je vais jouer à un jeu vidéo, mais du coup, je pense à ce que je pourrais en dire dans une émission. Donc oui, il y a un petit peu de ça, évidemment. Mais le truc que je dirais aux gens qui aimeraient se lancer ou qui aimeraient gérer, c'est voyez petit d'abord. Il est toujours possible de grandir. Il est beaucoup plus compliqué de réduire la voilure. Parce que réduire la voilure, ça pousse à... C'est le début de la fin, en fait. C'est comme quand on va à la salle de sport. Si une ou deux fois, on se dit « Oh, c'est bon, aujourd'hui, je suis fatigué, j'y vais pas », c'est foutu. Donc, moi, quand j'ai commencé, c'était un type d'émission très différent. Je faisais beaucoup de montage, etc. Mais je faisais une émission par mois. Et j'ai vu si ça m'a plu et j'ai vu si je tenais le rythme. Et puis, je suis passé à 2 émissions par mois pour certaines émissions. Et puis, j'ai accéléré, fait plus d'émissions, etc. Mais il vaut mieux commencer petit et apprendre. Et oui, tout le monde a commencé petit. Tu parlais de PewDiePie. Moi, j'évoque souvent le cas de MKBHD, qui est le plus gros reviewer tech, qui est énorme dans la tech et qui est reconnu par toutes les sociétés du monde. Enfin, il fait un travail incroyable. Quand on voit les vidéos qu'il faisait il y a 5-6 ans, quand il était collégien dans sa chambre avec une pauvre webcam toute pourrie pour faire une review d'un ordinateur portable dont personne n'avait entendu parler, mais c'est ce qu'il avait à portée de main. C'est impressionnant. Et oui, on commence tous quelque part, mais il ne faut pas... Je dirais qu'il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est faire peu et accélérer. Et d'autre part, done is better than wished. C'est une chose que je disais sur une application de réseau social qui existait il y a un moment, qui s'appelait Boldify, je crois, ou Boldomatic. Done is better than wished. Un truc fait, c'est mieux qu'un truc qu'on aimerait faire. Donc, le perfectionnisme, c'est bien, mais à un moment, il faut sortir les produits aussi. Donc, trouver le bon équilibre là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un background de radio et qui ont des exigences hyper importantes sur la qualité du son, sur le fait d'avoir tout le monde dans la même pièce, c'est très bien si on peut, mais à un moment, si vous mettez des contraintes énormes et dire bah, il va falloir qu'on se retrouve à chaque fois pour faire l'émission et il y a ces 3 personnes qui doivent être là, parfois ça va peut-être pas se faire. Et donc c'est pour moi, en tout cas, la manière dont je vois le truc, c'est que il faut que la régularité est hyper importante, et donc je fais en sorte de pouvoir être régulier. Ça, c'est un aspect important. Ouais.
Oui, et puis surtout, c'est un aspect, comme tu dis, hein, tu es dans la forêt finlandaise pour enregistrer maintenant, tu étais avant à Paris, tu étais au Japon, enfin, et à un moment donné, finalement, tu te déplaces et tu as pu continuer à être régulier comme ça, finalement, de continuer à travailler sur tous ces sujets-là. Comment tu gères d'ailleurs? Alors, ça peut être une question qu'on se pose les gens pendant les vacances, il y a des moments où tu confies les missions à d'autres, hein, parce que pour que ça s'arrête pas. Mais parce que bien sûr, au bout d'un moment, t'es obligé de faire une pause quand même. C'est pas, il y a un moment où on doit s'arrêter.
Ouais, c'est au début, je le faisais pas ça. Au début, je m'arrêtais quasiment jamais. C'est vrai que maintenant que c'est mon boulot et que ça me prend tout le temps de ma vie, j'ai dû décider ce genre de choses. Et c'est l'année dernière, la première fois où je me suis dit, avant, je prenais 2 semaines. 2 semaines en été, 1 semaine en hiver. Le problème, c'est que pour enregistrer une émission, il faut préparer la semaine d'avant. Donc, s'arrêter 2 semaines, ça voulait dire plus ou moins s'arrêter 1 semaine, mais on sait bien que ça commence pas vraiment la première semaine, on est encore stressé. Et la semaine d'après, je devais déjà commencer à faire la veille pour l'enregistrement. Donc, c'était pas des vraies vacances. Et pendant très longtemps, j'ai fait comme ça. Là, je me suis dit, l'année dernière, c'est plus possible. Je suis hyper stressé, je cours partout tout le temps. Donc, je vais prendre 4 semaines. Et 4 semaines, ça veut dire, bah, il faut des émissions spéciales, des émissions confiées à des co-animateurs qui ont l'habitude et que les auditeurs connaissent, pendant l'été, qui est un petit peu plus calme. Donc, oui, c'était un compromis que j'ai fait parce que ça devenait nécessaire. Mais d'une manière générale, c'est vrai que je m'arrête jamais, parce que et c'est l'un des avantages du format podcast audio, c'est qu'on peut vraiment le faire très facilement et de n'importe où. Skype, ça marche de partout, surtout que maintenant que l'Internet est très développé dans le monde entier. Et j'ai besoin d'un micro et de Skype pour faire mon émission. J'ai développé des processus de production qui me permettent très facilement de sortir les émissions et d'enregistrer les émissions et de monter les émissions de n'importe où. Donc ça, c'est un truc qui est possible avec mon format, qui est peut-être plus difficile avec d'autres, mais c'est aussi parce que je voulais que la régularité soit inflexible. C'est un truc que les gens qui me connaissent et qui m'écoutent parler de toutes ces choses-là, savent bien, et c'est presque devenu une blague maintenant. C'est le fameux épisode que j'ai enregistré depuis un aéroport en Russie. Et je sais que quand j'en parle maintenant, c'est les
Oui,
auditeurs,
on en sourit parce que...
les patriotes, ils sourient, ils se disent, ah, c'est bon, il nous parle encore de cet épisode en Russie, mais il est emblématique, parce que c'était une émission, je bossais en Russie pour un lancement de jeu et j'avais juste pas eu le temps d'enregistrer ou rien, et donc je l'ai fait de l'aéroport avec un micro, je sais même plus quel micro j'utilisais, je crois que c'était les écouteurs de l'iPhone, et donc j'ai enregistré et ça m'a permis de le sortir peut-être une journée en retard, mais voilà, c'était m'assurer que ça soit toujours disponible, quelles que soient les conditions, comme cet esprit pour la salle de sport. Si on s'arrête une fois, c'est le début de la fin. Donc pendant très longtemps, je me suis même pas arrêté une fois, et c'est très rare aujourd'hui que je rate un épisode. Je crois que ça n'arrive jamais. Parfois, je préenregistre des épisodes spéciaux à l'avance, mais même ça, c'est super rare. Donc ouais, ça fait partie de la philosophie de production, de se dire je vais pouvoir le faire de n'importe où, n'importe comment. Je suis parti au Japon pendant quelques mois en 2016 avec ma femme, qui elle pouvait bosser de l'étranger et moi je pouvais bosser de l'étranger. On s'est dit bah on déménageait de la France à la Finlande, on n'avait pas d'appartement à ce moment-là, et on s'est dit bah du coup autant payer un appart au Japon. Et oui, et on l'a fait. Et j'ai continué. Les auditeurs, j'en parlais dans les émissions, mais s'ils ne savaient pas, ils s'en seraient pas rendu compte. Et ça, c'est une richesse. Bon, aujourd'hui, on a le petit, etc. Donc, c'est plus vraiment possible, mais c'est un truc qui était vraiment cool à faire.
Oui, et puis c'est l'une des richesses du format podcast qu'on se dise, parce que finalement les gens ne voient pas, ils savent pas si comment t'es habillé, où tu te trouves, ou si t'as un
Ah,
casque sur la tête.
pour toutes mes émissions, évidemment,
Ouais,
hein.
non, mais bien sûr, t'as mis un petit pull juste parce qu'il fait un peu frais, mais sinon tout le monde est en caleçon. C'est une blague que Corben fait souvent d'ailleurs, ces histoires-là, quand il raconte ça. Mais c'est vrai que le format podcast en lui-même, c'est aussi cette liberté-là, finalement, de se dire il n'y a pas l'image, il y a plein de contraintes qui sont supprimées. Alors bien sûr, ça peut limiter aussi dans certains aspects, Parce que si on veut parler de produits tech, on les décrire des fois, c'est un peu compliqué. Ou décrire des fois, souvent, t'essaies de décrire des choses qu'on voit dans des vidéos, t'essaies de décrire des choses, etc. On se dit, il va y arriver, il va pas y arriver, mais comment décrire ça, ce qui est pas simple.
C'est pas facile,
ouais, c'est pas facile à décrire ça. Donc chaque format a un petit peu son côté avantage et aussi inconvénient. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que le format podcast, on n'a pas besoin de grand chose. Moi, j'avais enregistré un épisode de podcast depuis un quai de train un jour après une formation. On entend les bruits du train derrière qui passe parce que je voulais pas rater mon rendez-vous et j'ai dit tant pis, je le fais sur le quai. Et j'ai dit j'ai 7 minutes tant que le train arrive, c'est le temps de mon épisode du jour. Et hop, et il était parti en même temps que moi dans le train. Donc on a chacun nos petites marottes. Mais c'est vrai que cette histoire de régularité fait partie, hein, tu vois, moi, sur mes notes, j'ai marqué quelle est la clé du succès, donc constance, régularité, cet aspect aussi, finalement, t'as toujours été très pro dans cette approche-là par rapport au podcast, même quand t'étais pas pro, finalement, tu disais c'est ton deuxième métier, hein, c'était ça. Est-ce que tu vois d'autres conseils, tu vois, comme ça, si on te dit, bah, tiens, j'ai envie de faire la même chose, mais comment je fais pour me lancer, comment j'arrive à faire ça?
Je dirais que il faut juste se lancer en fait. Il faut y aller. C'est comme je disais, done is better than wished. C'est hyper facile de faire du podcast. Si vous le faites parce que vous voulez avoir la gloire immédiatement et avoir des milliers d'auditeurs tout de suite, bon, effectivement, ça risque d'être compliqué. Il faut le faire parce qu'on a envie. Mais si c'est le cas, si vous avez envie, il faut juste arrêter de se poser des questions. Peut-être, allez, vous vous donnez une date limite, et puis, une fois que la date limite est atteinte, eh ben, vous vous lancez. Et je dis une date limite parce qu'il faut quand même comprendre comment ça fonctionne, se renseigner un petit peu sur quels outils utiliser. Effectivement, vous n'allez pas vous lancer demain si vous n'y connaissez rien. OK. Mais il ne faut pas non plus trop se compliquer la vie et se dire « Ah ben, je ne peux pas pour telle question, il faut que ça soit mieux fait, il faut que ceci et cela. » Non. Au bout d'un moment, vous vous lancez et si vous allez être mauvais au début, c'est normal, tout le monde passe par là, vous allez vous améliorer petit à petit et c'est juste sympa et peut-être que ça vous plaira. Si ça ne vous plaît pas, ben, vous pouvez arrêter. Mmh. Mais je pense que le meilleur conseil à se donner, c'est de se lancer, vraiment.
Ouais, je me rappelle d'ailleurs, tu disais que dans les premiers épisodes, tu disais beaucoup de « e », d'hésitation, il y avait plein de choses qui te dérangeaient beaucoup dedans.
Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message en me disant « Ah, oh, tu dis beaucoup de « e », tu fais des hésitations ». Je me suis dit « Merde, c'est vrai qu'il faut, ça aussi, il faut y faire attention quand on fait une émission et ça, c'est de la concentration, donc ça fatigue aussi. Parfois, c'est vrai que j'ai tendance si je suis fatigué, à en faire un petit peu plus, mais j'espère, oui, moins qu'avant, oui.
Oui, mais après, on a tous nos tics. Un jour, quelqu'un m'a dit, ton podcast devrait s'appeler Simplement, parce que tu le dis au moins 10 ou 15 fois par épisode. J'ai dit, bah oui, c'est une bonne idée. Le prochain podcast s'appellera Tout Simplement. Parce que finalement, c'est vrai que c'est mon branding à moi, comme ça, qui se fait naturellement et qui se fait bah, tout simplement comme ça. Je suis désolé de le dire aussi souvent. Je sais pas trop comment le dire autrement.
À mon avis ou à mon humble avis, je pense.
Ouais, il y a beaucoup d'expressions comme ça. Bon, alors on va parler, je précise, de ces questions techniques dans l'autre podcast, un podcast génial maintenant, parce que j'ai demandé, on fait cet épisode en deux fois. Donc, ce que je te propose maintenant, parce que finalement, on a fait un tour sur tout ça, sur toutes ces créations, etc. Comment tu vois un petit peu l'avenir? Parce que j'imagine, tu as dit, tu as une société, mais comment est-ce que on arrive à se sortir de ce quotidien de dire je publie mes épisodes toutes les semaines, etc. avec ce rythme-là. Comment après tu arrives à voir à combien de temps, je te dis pas d'année hein, finalement, à combien de temps tu arrives à te projeter sur l'évolution que tu voudrais injecter à l'intérieur de tes créations?
Combien de temps je vois, on va dire, ce que je sais, et là encore c'est une chose dont je parle souvent, c'est que je veux faire ça pendant très longtemps. Donc je veux, moi je pense pas au prochain épisode ou au prochain 6 mois, je pense à 5 ans, 10 ans. Et c'est pour ça quand j'ai inclus de la pub dans les émissions, c'est l'une des choses que je disais. Je pense que c'est une chose qui est importante à faire parce que à terme, je veux diversifier les sources de revenus parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas se reposer sur une seule source de revenus. Donc ça, c'était une chose. Donc, je vois vraiment, je veux, et toutes mes réflexions, c'est des changements assez lents pour durer longtemps. Mais je n'ai pas de plan hyper précis au-delà des prochains, je dirais, 6 mois, peut-être 1 an maximum. J'ai une idée vague de ce que je veux faire dans les prochains 6 mois, pas vague, j'ai une idée relativement précise de ce que je peux faire dans les prochains 6 mois, une idée un peu vague de ce que je veux faire dans la prochaine année, mais j'ai pas un plan en 3 points sur le développement business professionnel le plan à 5 ans, tu vois. La seule chose que je sais, c'est que les décisions que je prends, c'est pas des coups de tête, et que je veux de la... Moi, je veux continuer à faire ça sur... Enfin, je ne sais pas si j'aurai une retraite, donc je veux pouvoir continuer à le faire pendant très très longtemps.
Oui, bon, l'avantage du podcast, c'est que tu peux le faire pendant très longtemps, du moment que tu arrives encore à parler. Après, à savoir, parce que ce qu'on ne sait pas finalement dans cette histoire-là, c'est comment va évoluer le monde du podcast en lui-même, parce que quand on regarde un petit peu les manœuvres de Spotify, tu parlais d'ailleurs de dire la publicité, etc., mais finalement, certains ont choisi de... financer leur podcast en donnant l'exclusivité à Spotify, hein. On le voit en France, on l'a vu en France, on voit chez Gimlet aussi sur des nouveaux formats où finalement il y a des saisons qui sont financées par Spotify mais qui sont pendant 1 an, elles sont bloquées chez eux un petit peu sur les médias comme ça. Donc finalement le modèle du podcast en lui-même aussi, on a une richesse, hein, c'est celui RSS qui est distribuable partout, mais on sent quand même qu'il est attaqué dans pas mal d'endroits, hein, et ça pose aussi quelques questions sur est-ce qu'on arrivera encore à se développer si facilement que ça. Je sais pas toi quelle vision tu as de ça, parce que je t'ai pas vu très défenseur du flux RSS ou de choses comme ça. On a des gens qui sont très virulents sur le sujet, ce qui semble pas être en tout cas un sujet sur lequel tu t'exprimes souvent.
Ouais, la défense du flux RSS, c'est un problème très compliqué. Comment dire? Je pense que le podcast est un média qui est très résilient. C'est difficile de faire. Il y a beaucoup de gens qui disent on veut faire le YouTube du podcast. Mmh. Ok, très bien. Le truc, c'est que le YouTube, c'est une plateforme qui est complètement propriétaire, alors que le podcast, c'est un petit peu comme les emails, en fait. C'est une plateforme qui est complètement décentralisée et qui n'appartient à personne. Difficile d'imaginer pour moi un moyen de capturer toute l'activité du podcast. Il y a 1000 apps différentes, c'est fédéré, c'est très libre. Encore une fois, la comparaison au mail, je crois, est assez adaptée. Donc, je ressens pas aujourd'hui un danger énorme. Peut-être que Spotify réussira à s'en tailler une bonne partie, c'est possible, mais je ressens pas, moi, un danger énorme de voir le podcast se faire phagocyter par un acteur du marché. De la même manière que Gmail, oui, ils ont une grosse partie du marché, mais c'est pas le seul client mail. Il est loin de... Donc pour moi, ça fonctionne un petit peu de cette manière. L'un des gros soucis qu'il y avait eu ces derniers mois, c'était que certaines applications allaient intégrer vos podcasts, comme toutes les applications du monde, et puis ensuite vous vendre un abonnement pour avoir accès à leur contenu exclusif. Donc l'argument était que ces sociétés se servaient du contenu gratuit pour ensuite vendre du contenu payant. Le truc, c'est que la manière dont je le vois, c'est que toutes les applications de podcast du monde font ça. C'est pas aussi évident que dans certaines que dans d'autres, mais même Apple, le fait d'être venu le point central des podcasts, même s'ils le font pas payer directement, ça leur sert, ça développe leur écosystème et ils vont vous vendre ensuite des téléphones à 1000 euros. Donc, il y a là une forme de profitage de la part d'Apple aussi. Donc, moi, ma solution, c'était de dire que ces applications devaient proposer un moyen simple de retirer le contenu des créateurs qui souhaitaient le retirer. D'autres disaient, et notamment c'est le cas de Yann, avec qui on est amis et on discute souvent, mais il était très virulent sur ce point, il disait, il faut que ces applications demandent l'autorisation avant d'inclure le contenu. Mais ça, ça fonctionne pas. Ça peut juste pas fonctionner de voir les choses comme ça, parce que toutes les applications de podcast du monde se basent sur le catalogue d'Apple pour rendre les podcasts disponibles dans leur application. Et c'est pas parce que c'est des applications développées par des indépendants et des développeurs autonomes que c'est pas des applications qui font de l'argent. Donc les considérer de manière... Bref, c'est un problème très compliqué. Je vais plutôt répondre à ta question sur Spotify. Si demain Spotify vient me voir et me dit on voudrait le rendez-vous tech, c'est super cool Patrick, on voudrait... Bon, je pense pas que ça soit le genre de contenu qu'ils recherchent, hein, mais s'ils me disent il faudrait que tu sois exclusif sur Spotify demain, ça serait super cool, je vais leur dire bah non. Enfin, vous mettez combien de zéros ?
Voilà.
Tu vois, tout le monde a son prix.
C'est la fameuse question du million en fait.
Exactement, exactement. Évidemment, s'il me propose, bah, on va vous filer 1000 euros pour l'exclusivité. Non, ça va pas m'aller, évidemment. S'ils me disent, on vous donne 1 million sur 3 ans pour que le rendez-vous texte soit exclusif à Spotify, évidemment, ça va me faire réfléchir. Je vous rassure, je doute qu'ils estiment que le rendez-vous tech vaille 1 million sur 3 ans. Donc, mais oui, voilà, c'est en ces termes que se pose la question. Mais bon, franchement, moi, je pense que la force de mes émissions c'est qu'elles, et du podcast en général, c'est qu'ils sont disponibles partout, y compris sur Spotify et sur toutes les autres applications de podcast. Et je ne pense pas que les choses changent avant un long moment.
Voilà, et ben comme ça tout le monde est rassuré, donc on peut aller écouter toutes les émissions en sachant que bah déjà on sait, et c'est, mais c'est intéressant hein, de dire que oui, c'est envie de faire ce métier pendant très longtemps, t'as envie vraiment de continuer pendant très longtemps comme ça, parce que c'est aussi un plan de vie hein, comme ça tout simplement, et que c'est intéressant quand on veut donner de l'argent, quand on veut financer, de savoir un petit peu où ça va. Alors bien sûr, t'as fait des questionnaires, on pourrait parler parce que t'as eu beaucoup de réponses, t'as fait ça en plus de photos pour nous inciter à aller voir, à répondre à toutes les questions, mais ceux qui sont sur Patreon le savent très bien. En tout cas, ce qu'on va donner maintenant, c'est un lien tout simplement, parce que ou écouter ou te suivre aussi, parce que alors on l'a pas dit, mais tu es très volubile sur Twitter hein, où tu y a pas que sur Slack, il y a aussi sur Twitter. Pour te suivre, pour écouter, pour voir un petit peu le panel de toutes les émissions.
Bah écoute, oui, le plus simple, c'est peut-être de me retrouver sur Twitter ou sur Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram maintenant aussi. Je développe la chose, on va dire. Et c'est un réseau social que j'apprécie de plus en plus. D'ailleurs, je parlerai de pourquoi aussi, pour que ça soit intéressant pour les auditeurs, pas juste pour en faire la promo, mais j'en parlerai dans le rendez-vous tech, de pourquoi Instagram est différent de Twitter. Donc voilà, Twitter et Instagram, je suis NotPatrick, c'est très facile à retenir sur les deux réseaux. Et puis sinon, bah, les podcasts, tout simplement. Vous allez dans votre app de podcast, vous cherchez RDV Tech sur votre app de podcast, ou RDV Jeux, si les jeux vidéo vous intéressent. Et puis vous vous abonnez, vous essayez, vous voyez si ça vous plaît. C'est gratuit de toute façon, hein, comme tous les podcasts. Donc voilà, c'est Rendez-vous Jeux ou Rendez-vous Tech sur votre app de podcast. C'est le meilleur moyen de me retrouver.
Eh ben c'est parfait. Merci à toi merci beaucoup à toi pour ton temps et pour tes conseils.
Je perturbe les gens, c'est normal.
Je suis impressionné. Ce que j'ai dit, c'est de partir avec les personnes qui m'ont donné vraiment envie de faire plus de podcasts, alors que au début j'écoutais vraiment, mais je faisais plein d'autres choses. Donc merci à toi pour ton temps et pour tes conseils, pour vraiment. Et je pense que les gens auront vraiment compris la philosophie, et compris comment tu crées tout ça et quelle est la passion que tu mets là-dedans. On le ressent par les émissions, mais vraiment c'était intéressant de t'avoir. Donc je te remercie beaucoup pour avoir participé à cet épisode. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et je vous souhaite donc une très belle semaine.
Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.